Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, 22e partie, la Nouvelle Jérusalem.
Alors, le psaume 45, c'est plein de poésie, hein, et c'est ce que vous allez entendre ce matin. Alors, au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. On va reprendre au verset 10. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées. La reine est à ta droite, parée d'or d'Orphir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers cette première lecture. Nous allons en faire une seconde. Et peut-être chose assez inattendue, ce psaume est une prophétie. Ouais, c'est une prophétie biblique. Et à ce titre, j'aimerais vous conduire dans l'explication de ce psaume et lui donner corps, l'amener à prendre finalement toute la réalité de cette fille de roi qui n'est autre que l'Église, qui n'est autre que le peuple de Dieu. Le peuple des croyants, des hommes et des femmes, je le répète, qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui se sont repentis de leurs péchés et qui sont nés de nouveau. C'est une réalité pour nous, la nouvelle naissance. Alors, il s'agit justement de cette fille de roi parée d'or qui rentre dans le palais et nous allons parler maintenant de la nouvelle Jérusalem. C'est surprenant, hein? Et nous sommes pas au bout de nos surprises ce matin, vous allez voir. Parce que la Bible est un livre extraordinaire. C'est non seulement un livre prophétique, mais c'est un livre plein de charme. Vous l'avez vu avec moi, mes lèvres bouillonnent de charme. Et pour cela, la Nouvelle Jérusalem, nous la trouvons où? Dans le livre de l'Apocalypse. Et nous allons lire le livre, enfin pas tout entièrement, mais nous allons prendre le chapitre 21, et au verset 9, il est question de cette reine, oui, de cette reine, que le roi des rois, le seigneur des seigneurs est venu chercher pour l'épouser. C'est en quelque sorte, si vous voulez, le correspondant du cantique des cantiques, Salomon et la Sulamite. Il y a des livres extraordinaires dans la Bible. Alors, on va voir ça. Donc, Apocalypse 21, verset 9. « Puis un des sept anges qui tenait les sept couples remplis des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Voilà, on va s'arrêter là, on ira un petit peu plus loin dans le commentaire et dans la lecture. On l'appelle la cité de Dieu. Vous connaissez le terme. La ville épouse. La Jérusalem sainte. L'église idéale et glorifiée. Pas celle de, qui est la nôtre. Hein. Enfin, pas celle de Saint-Nazaire. Hein. Mais l'église universelle, qui est une église souffrante, une église militante, qui n'est pas encore l'église triomphante et glorifiée. Mais celle-ci, il s'agit de l'église idéale et glorifiée, et c'est aussi la femme de l'agneau. Voilà les termes qui caractérisent la nouvelle Jérusalem. Jésus, dans notre texte, est présenté comme l'agneau, car c'est à cause de son immolation à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans à Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, qui est toujours pour nous et bien d'actualité, que cette église est née. Elle est née de lui et elle est née pour lui. Ça, c'est une réalité que nous connaissons parce que c'est tout le message de l'évangile. L'évangile nous dit que Jésus-Christ est mort pour les hommes, qu'il s'est donné pour les hommes et que tous ceux qui croient en son nom, à son sacrifice et à la valeur de son sang expiatoire sont des hommes et des femmes qui sont sauvés par la foi et par grâce. Alors, cette Église que nous représentons infiniment, enfin que nous représentons d'une manière si modeste, voilà, c'est ça ce que je voulais dire précisément, eh bien, nous sommes nés de Jésus-Christ et nous sommes faits pour Jésus-Christ. Elle a été rendue semblable par ce qu'on appelle la régénération de l'esprit, ou la sanctification, rendue semblable à Christ, et il en a fait son épouse. Ce sont tous les termes qui sont employés par l'apôtre Paul dans ses épîtres. Elle est devenue la reine des noces de l'agneau, ce que nous avons déjà étudié il y a quelque temps. Et elle est digne de s'asseoir à ses côtés. Et c'est pourquoi je voudrais à dessein relire finalement, une partie du verset 9, il nous est dit qu'il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et nous allons poursuivre dans le commentaire « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. » De quelle montagne s'agit-il ? Eh bien, il ne peut être autrement que la montagne de la foi. Oui. Je monte sur la montagne de l'Éternel. Ça fait partie aussi du langage des psaumes. Et c'est sur cette montagne de la foi qui me permet et qui nous permet, nous, à chacun, les uns et les autres, de contempler la beauté transcendante de celle que Christ a élue, qu'il a rachetée et qu'il a sauvée. On peut avoir une idée très dépréciée de l'Église d'aujourd'hui. L'Église, ce n'est pas une dénomination. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une appartenance communautariste. Ce n'est pas, finalement, eh bien, un groupe parmi d'autres groupes qui se réclament de ceci et cela. La véritable Église de Jésus-Christ, elle se réclame uniquement de Jésus-Christ et de sa parole. C'est finalement l'autorité de sa foi qu'est la parole de Christ. Et il n'est d'autre référence que celle que nous trouvons en Jésus. Ce n'est pas une construction, une édification humaine. Et nous l'avons dit et je le rappelle, cette Église-là, elle est née tout simplement à cause de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Et nous l'avons entendu dans les louanges il y a un instant, dans l'adoration, que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui, mais lui nous a justifiés en raison d'une chose, c'est que la chose qui l'agrée, c'est tout simplement notre confiance et notre foi que nous mettons en lui. Alors, la montagne de la foi, pour admirer, pour contempler, finalement, cette beauté, parce que nous sommes des rachetés et des sauvés. S'attendrait-on, lorsque nous lisons le texte, à voir une femme Dans le psaume 45, il est question d'une femme, il est question de jeune fille qui va rentrer dans le palais du roi pour être épousée par le roi. Et on pourrait se dire, si nous restons sur cette même pensée, eh bien que il s'agit naturellement, eh bien là, d'une femme. Mais apparaît une ville éblouissante de sainteté que nous avons nommée tout à l'heure la cité de Dieu. La ville épouse, la Jérusalem sainte. Et cette Jérusalem actuelle existe naturellement. Elle est ce qu'elle est. Cette Jérusalem qui remplit toute une grande partie de l'Ancien Testament, où il nous est parlé finalement. Alors, il nous est simplement rappelé qu'elle est la femme de l'agneau, naturellement. Ville éblouissante de sainteté. Une sorte, si vous me permettez, parce que les mots sont difficiles lorsque nous abordons le livre de l'Apocalypse pour trouver les mots justes. Mais un organisme harmonieux d'êtres humains glorifiés. Nous sommes loin d'être glorifiés. Nous sommes encore dans un corps d'humiliation qui est notre chair. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes appelés à aller, à nous préparer, à vivre. Lorsque Jésus reviendra et qu'il emmènera, qu'il enlèvera son Église pour qu'elle soit glorifiée avec lui. Alors nous sommes sur ce chemin. Un chemin certes difficile, un chemin certes douloureux, parce que nous avons affaire à toutes les tribulations du monde extérieur. Mais je crois que le plus grand problème, c'est nous-mêmes. C'est notre moi, notre personnalité, qui se bagarre. Cette double nature que nous avons en nous-mêmes. Mais le Seigneur, j'en suis convaincu, eh bien, remportera la victoire sur nous-mêmes. C'est lui qui nous donnera, finalement, de vaincre le mal, toutes nos faiblesses, toutes nos tristesses, tous nos épuisements et nos lassitudes, tout ce que nous pouvons considérer comme des manques, pour justement nous amener à cette dimension de glorification. Jadis, le paradis d'Éden, qui était perdu, était un jardin. Vous l'avez lu. Le mot paradis, en persan, ça veut dire jardin. Donc, le paradis retrouvé, celui que nous avons dans le livre de l'Apocalypse, vous avez vu, il y a un équilibre formidable, extraordinaire. Le premier est Genèse, le deuxième Apocalypse. Alors le paradis retrouvé sera une cité, une ville, dont le caractère saillant sera l'amour et la sainteté parfait auprès de Dieu, partageant sa gloire. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Vous vous souvenez, ça c'est une citation d'un psaume. Pour que Dieu ait fait de moi et fait de chacun d'entre nous des fils et des filles, ait fait des princesses et des princes. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce qui fait la différence avec un autre homme? Alors là, peut-être la seule différence, c'est que je crois en Dieu Sauveur. C'est ça la différence. C'est ma foi qui est puisée dans l'Écriture, dans ce que Dieu dit. Et c'est elle qui me nourrit. C'est elle qui, finalement, eh bien, me fait avancer jour après jour, sans regarder à ma misère et à mon indigence morale et spirituelle, mais qui me pousse à aller de l'avant. Rien dans tout l'univers ne peut surpasser sa splendeur de cette cité de Dieu, œuvre souveraine divine. Et pourtant, lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons que nous contemplons de nos yeux les merveilles de la création, la divinité se voit comme à l'œil nu. Sa splendeur, ce déploiement d'énergie, ce déploiement de beauté à travers la vision de la montagne ou de la mer, à travers l'infiniment grand ou l'infiniment petit, comme David le dira dans le psaume 139, « Mais Seigneur, je te loue, mon Dieu, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Non pas que je sois merveilleux par moi-même et que nous soyons merveilleux par nous-mêmes, mais nous le sommes à cause de Jésus-Christ. » À travers l'image, son image qu'il veut imprégner en moi, pour que je sois à sa ressemblance. Alors ce qui va suivre maintenant fait en quelque sorte un descriptif de la gloire sublime qui nous attend. Ouais, on ne peut pas s'imaginer. Nous sommes de la terre, nous sommes des terriens, des terrestres. Ouais. Sommes issus de la poussière. Mais je voudrais vous donner une consolation ce matin pour tous nos frères et nos sœurs qui nous ont déjà quittés, précédés. Je voudrais vous dire que, eh bien, ils entrevoient déjà, finalement, cette grandeur et cette splendeur. Et nous la verrons aussi, si nous sommes fidèles au Seigneur. Oui. Il n'y aura plus rien de comparable avec la terre. Il n'y aura plus rien de semblable avec notre condition d'homme. En quelque sorte, notre vie, c'est une école. Une préparation pour aller dans l'au-delà, parce que notre vraie demeure, elle n'est pas ici, elle est de l'autre côté. Vous avez remarqué combien nous chantons de cantiques dans l'hymnologie chrétienne, dans l'espérance du ciel, et heureusement qu'il y a le ciel. Parce qu'autrement nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Heureusement qu'il y a l'espérance du ciel. Alors quand nous les chantons, nous ne voulons pas les chanter avec routine ou par habitude, mais en pesant les paroles, et je voudrais vous dire que c'est ce qui nous attend, frères et sœurs. On parle très peu du ciel dans les prédications, les pasteurs en parlent très peu parce qu'on sait peu de choses. Mais quelquefois il faut s'y appliquer, non pas à faire des révélations spéculatives, mais rester sur la parole et nous laisser porter et conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses extraordinaires et merveilleuses. Lève les yeux vers le ciel, et tu verras, tu contempleras ce que le Seigneur a préparé pour chacun et pour chacune. Et ça nous donne véritablement de l'espérance, et ça nous donne de pouvoir supporter nos souffrances et nos difficultés, parce que notre cité, elle n'est pas ici, elle est de l'autre côté. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Faut pas l'oublier, on ne s'installe pas. On est simplement, eh bien, de passage, tout simplement. Alors, ce descriptif, il nous est donné à travers le verset 11, sur lequel maintenant je poursuis. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Vous avez remarqué, il est parlé d'éclat. Il est parlé de pierres précieuses, de jaspe et de cristal. C'est étonnant, hein? C'est un étrange retour à l'univers minéral que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Vous savez que dans le chapitre 2, avant la catastrophe du chapitre 3, c'est-à-dire la chute de l'homme, il nous est dit que Dieu planta un jardin. Planta. Donc il l'a fait de toutes pièces. Et dans ce jardin, il nous est parlé de quatre fleuves que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, réunis en un le fleuve des eaux de la vie. Et nous voyons qu'à un moment donné, il nous est parlé de tout cet univers magnifique, incomparable, inimaginable, du monde minéral. Il est parlé de l'or d'Ophir. Il est parlé de toutes sortes de choses extraordinaires. Vous relirez ça dans votre Bible, c'est extraordinaire. Et là, nous voyons que le début de la Bible, c'est le monde minéral, et la fin de la Bible, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est aussi le monde minéral. Et nous allons voir le descriptif, vous allez voir, c'est extraordinaire parce qu'il y a une signification à chaque pierre. Cette richesse évoque la transparence, la limpidité que tout ce qui est dans ce ciel et tout ce qui se passe, tout ce qui se passera, ne peut être caché, ne peut être dissimulé. C'est pour ça qu'il y a cette transparence. Autant dans ce monde, les choses sont enfouies, volontairement oubliées, cachées, dissimulées, autant de l'autre côté, eh bien, tout sera à nu et à découvert. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus, des fils d'Israël, à l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous relevons qu'il y a une muraille à cette cité sainte. Nous avons à entendre qu'elle est garnie de portes, et sur ces portes il y a des noms écrits, avec une signification tout à fait particulière. Je voudrais vous rappeler, et vous le savez aussi bien que moi, que les murailles ont toujours fait office de protection dans le monde des hommes. À travers les châteaux, à travers les cités, des murailles, dans les citadelles, dans les forteresses, toujours pour la protection de ceux qui sont à l'intérieur. Mais je relève que dans la cité céleste, la sécurité sera absolue. Alors je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs qui vivaient encore dans la peur, dans la crainte, dans l'inquiétude, dans le souci, le tracas, l'angoisse, dans l'anxiété, ça sera fini complètement et totalement. Plus rien à craindre. Plus rien à craindre. C'est la muraille déjà existante de la foi. Et quand nous nous réunissons pour apporter le message de l'Évangile, qu'est-ce que nous communiquons à ceux qui écoutent la parole, et particulièrement ceux qui nous rejoignent, les sympathisants, les amis qui nous rejoignent? On dit exactement ce que Jésus a toujours dit dans l'Évangile, « Ne crains point, Dieu n'est pas ton ennemi, il est ton ami. » Et nous n'avons rien à craindre, ni la vie, ni la peur, ni la mort. Et dans cette Jérusalem, vous qui tremblez, vous qui craignez, eh bien, rassurez-vous, c'est que de l'autre côté, ça sera fini. Nous sommes dans une enveloppe. Parce que je voudrais quand même vous rappeler que, à la chute de l'homme, au chapitre 3 de la Genèse, le premier sentiment émotionnel que l'homme a connu, c'est la peur. Et il en sera tout autrement, ça sera fini. Parce que ça existe, cette foi, dans l'ancienne et la nouvelle alliance, mais là, ça sera arrivé à la perfection dans la cité de Dieu. Ici, plus de danger, plus d'inquiétude, plus de dépression. Les choses seront totales et parfaites. Et voici, nous avons remarqué avec moi qu'il y a 12 portes et elles sont ouvertes. Ouais. Et ça, c'est important de signaler. Elles sont ouvertes et elles sont dédiées dans une première partie aux 12 tribus d'Israël. Parce que Israël, c'est une réalité biblique. C'est encore une réalité de notre monde d'aujourd'hui. Alors, 12 tribus d'Israël, tant il est vrai que les 12 tribus d'Israël soient entrées dans l'alliance de Dieu. Alors, une grande partie d'Israël a rejeté son Messie, a rejeté le Christ de Dieu. Mais je voudrais quand même vous dire que dans le peuple d'Israël, il y a les juifs messianiques. Ouais. Hey, les apôtres, c'était tous des juifs. Et c'est ce qui fera dire à Jésus, à la Samaritaine, mais le salut vient des juifs. Donc, dans la Jérusalem d'en haut, alors il y aura mêlé et associé avec l'Église d'origine païenne que nous sommes, eh bien finalement, cette composante de ceux qui, comme Siméon dans l'évangile de Luc, attendaient la consolation d'Israël à travers le Messie, à travers le Christ. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est merveilleux de savoir que ce monde sera réuni et une première partie, donc avec les 12 tribus d'Israël, le nom des 12 tribus d'Israël. Je voudrais vous faire remarquer également que les anges aux portes, parce qu'il nous est dit qu'il y a des anges aux portes, ne sont pas armés comme autrefois les chérubins à l'entrée de l'Éden pour en interdire à l'humanité pécheresse finalement d'y pénétrer. C'est encore Genèse chapitre 3. Et là, c'est intéressant parce que il n'y aura pas d'armes. Il nous est dit que Dieu a interdit l'entrée de cette humanité qui venait de sombrer dans le péché, a interdit l'entrée de ce jardin d'Éden avec des chérubins aux épées flamboyantes. Mais là, à la fin, c'était fermé au début, c'est ouvert maintenant. L'accès est libre. Et c'est bien l'image de l'invitation à, écoutez bien, à tout fils prodigue, repentant, de rentrer dans la maison du Père. Je dis que là aussi, Jésus avait eu raison de donner la perle des paraboles, le fils prodigue. Et mes frères et mes sœurs qui priaient pour vos enfants, pour vos petits-enfants, qui priaient pour ceux qui sont vos bien-aimés, pour qu'ils se convertissent, qu'ils se tournent, eh bien écoutez, l'entrée est ouverte, l'entrée est libre. Et c'est pour tous les fils et les filles prodigues. Vous en étiez, j'en étais un. Et le Seigneur, au lieu de me condamner, eh bien, m'a racheté. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Je poursuis avec le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Israël. Et voilà. Israël, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et puis les apôtres de l'agneau, l'Évangile, le Nouveau Testament, les apôtres de Christ. Vous avez remarqué, il est parlé de fondement. Cette muraille avait, eh bien, des fondations. On pourrait peut-être le désigner sous d'autres termes, synonymes, c'est-à-dire des assises, un socle, une base. Et si Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre de l'angle, comme il le dira lui-même, il y a 12 noms d'apôtres qui rappellent l'évangile de la grâce. Israël, c'était la loi, avec les 10 commandements. Aujourd'hui, c'est la grâce, c'est le sermon sur la montagne, ce sont les béatitudes. À travers leurs écrits, quand je pense à Matthieu, quand je pense à Jean, quand je pense à Jacques, à Pierre, les épîtres par exemple, alors c'est marqué par leurs écrits la prédication de la foi qui ramène les hommes à Dieu. Chacun a eu son rôle. L'ancien Israël, sous la loi, avait pour vocation de préparer finalement le monde à la venue du Messie. Mais les apôtres sont là pour dire « mais le Messie est arrivé ». En quelque sorte, et je le dis et je le répète, l'Ancien Testament c'est le bourgeon, le Nouveau Testament c'est la fleur qui embaume et qui nous donne le parfum du ciel. Alors, ces apôtres ont amené ce qui n'était pas possible de faire parce que la loi ne pouvait pas rendre parfait. Mais la grâce, oui. La foi en la grâce, oui. Et ils sont appelés apôtres de l'agneau. C'est pourquoi, eh bien, leur nom sera sur les portes dans la Nouvelle Jérusalem. Allons plus loin. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. On continue. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau. Avec le roseau, il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Vous avez tout compris et fait le calcul, naturellement. Si vous avez l'esprit mathématique, c'est le moment. Hein. Alors, mais c'est une image, c'est symbolique tout cela naturellement. Les mesures de la Nouvelle Jérusalem sont faites avec un roseau d'or, qui est l'emblème tout simplement de l'amour dans le royaume de la vérité. Ouais. Tout y est rigoureusement exact. C'est la ville, c'est la cité de l'égalité. Connaissez notre devise nationale. Hein. On a beaucoup de mal hein, à réaliser. Mais là, ça sera la réalisation parfaite. La cité de l'égalité pour tous. Et il nous est dit que la forme est un carré. La forme est un carré, c'est-à-dire une figure géométrique parfaite en se souvenant que dans le lieu très saint du tabernacle, vous vous souvenez l'histoire dans l'Ancien Testament, du tabernacle construit par Moïse. Celui-ci, qui n'était que l'ombre des choses à venir, était cubique, type de ce qui demeure toujours identique à lui-même. Ouais, parce que Dieu ne change pas. Vous prenez un carré, vous le regardez sur toutes les coutures, vous le prenez dans un sens ou dans un autre, c'est pareil. C'est égal. Et c'est parfait. Et quand nous nous souvenons que quand Moïse va recevoir les oracles de Dieu pour construire le tabernacle, qui sera véhiculé dans le désert, et le temple de Jérusalem par Salomon, eh bien le lieu très saint, qui représente finalement eh bien ce dont nous parlons, était aussi un cube. Tout simplement pour montrer eh bien la perfection. 7/7. Hein. On continue. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. La muraille en jaspe. C'est une espèce, je me suis renseigné, une sorte de chalcédoine dont il nous est parlé aussi dans la Bible, colorée rouge. D'ailleurs, on l'appelle jaspe sanguin, qui quelquefois est irisé avec du verre. C'est une pierre d'une grande valeur. Et nous voyons que cette ville aussi se caractérise par de l'or pur. Vous avez remarqué, il nous est dit semblable. C'est-à-dire que comme, en quelque sorte, semblable. Donc ça laisse aussi notre interprétation, eh bien, peut-être chercher à comprendre, et semblable au verre pur. Et combien, et je le répète encore ce matin, combien il est difficile avec des mots humains de décrire toute la splendeur de ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, et particulièrement sur la cité de Dieu, pour pouvoir la contempler, pour pouvoir comprendre. Aujourd'hui, nous comprenons comme à travers un miroir, et encore un miroir dépoli. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens que nous comprendrons comme nous avons été connus, et que nous verrons comme nous avons été vus, et qu'à ce moment-là, eh bien, les choses seront révélées complètement et totalement. Peut-être si nous voulons faire une comparaison, parce que les mots sont difficiles. Ici-bas, tout est pâle et sans beauté, bien que ça ne soit pas dénué de coloris et de charme, mais en comparaison du ciel de gloire, ça ne sera rien. Si aujourd'hui nous nous installons en disant sur la terre, mais c'est formidable, c'est merveilleux, je crois qu'il y a des choses formidables et merveilleuses, nous ne sommes pas là pour dire que le contraire, mais nous voyons que vraiment à travers, eh bien, un trou de palissade. Mais lorsque nous arriverons de l'autre côté, ça sera l'émerveillement, mes frères et sœurs. Quelque chose extraordinaire. Et j'espère que nous avons une âme de poète. Ou d'artiste. Parce que le grand artiste, il va nous montrer des choses à l'infini. Merveilleuses. Et moi, je suis véritablement, eh bien, émerveillé. Et je dois pouvoir, et nous devons pouvoir partager en nous cet enthousiasme et cette attente, finalement, de rentrer dans cette dimension spirituelle de l'au-delà. On n'a pas envie de mourir, naturellement. Mais toujours est-il que, vous savez, tout cela passera, tout cela disparaîtra. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Le second, de saphir. Le troisième, de chalcédoine. Le quatrième, d'émeraude. Le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Mesdames, demandez donc à vos maris de vous offrir un petit cadeau, c'est une suggestion que je vous fais ce matin. Ça va coûter cher. Ou alors, si vous voulez pas l'acheter, ben vous faites un petit trou dans la terre et vous essayez de le trouver. Mais ça va être dur, hein. Voilà, la beauté. Vous savez que les pierres précieuses ont toujours fasciné les hommes, hein. Ah oui, et ça a toujours été quelque chose, hein. Et il y a des pays particulièrement là où il y a des extractions de formidables, hein. Et ça, on trouve pas ça dans nos supermarchés pour les acheter. Hein. Vous allez place Vendôme et sur toutes les grandes places hein, des capitales du monde, parce que vous les trouverez pas. Mais il faut pas venir avec un carnet de chèques en déficit, hein, parce que là, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire quelque chose, toutes ces pierres. Comme sur le pectoral du souverain sacrificateur. J'espère que je suis pas trop appliqué, mais vous connaissez votre Bible. Hein. Le souverain sacrificateur avait les pierres précieuses aussi, sur sa poitrine, sur son cœur. Remarquons ceci, c'est que les assises de la muraille, posées par les apôtres de l'évangile du salut, ont chacune leurs caractéristiques propres. chacune a une leçon à nous révéler. Ce sont des pierres précieuses, inestimables, pour nous donner cette leçon. Et la leçon est la suivante, écoutez bien. L'œuvre de chacun des apôtres, l'œuvre de chacun des hommes, des femmes que nous sommes aujourd'hui à travers tous les temps, qui sommes des témoins de Jésus-Christ et des ambassadeurs pour son royaume, alors je dis bien que l'œuvre de chacun resplendit, resplendira d'un éclat particulier en reflet de chaque personnalité qui est la nôtre. Un Pierre, c'est pas un Paul. Un Jean, ce n'est pas un Matthieu. Et chacun d'entre nous, nous sommes différents. Mais Dieu nous a choisis pour que nous gardions notre identité particulière. C'est comme dans un bouquet de fleurs, un cocktail de fleurs. Un bouquet avec peut-être qu'une variété de fleurs, c'est très beau. Mais il y a quelque chose de magnifique comme un feu d'artifice lorsque vous mélangez les fleurs. Eh bien, c'est exactement ça l'Église. Dieu a créé la variété, la multiplicité, pour que finalement cette beauté, eh bien, soit connue de tous. La chose n'est pas unique, elle est multiple, elle est multipliée. Chaque apôtre, on a parlé des 12, dont les noms sont écrits sur les fondements. Chaque apôtre a ceci pour lui, il a, ne vous effrayez pas des mots, hein, il a sa dogmatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a sa manière d'exposer l'évangile de la vérité de Jésus-Christ. Il a peut-être sa doctrine spécifique, ne sautez pas en l'air, hein. Mais tout concourt à l'harmonie de l'ensemble. Et ces pierres différentes correspondent finalement à chacun de ce que nous sommes, les uns et les autres. Vous avez par exemple dans les apôtres un Paul qui était un doctrinaire, qui a posé finalement les fondements de l'Église chrétienne à travers ce monument théologique qui est l'Épître aux Romains. Vous avez un Jacques qui était un apôtre qui a écrit sur la vie pratique chrétienne. Vous avez un Jean le contemplatif. Vous avez un Matthieu, par exemple, qui a écrit l'Évangile pour s'adresser particulièrement au peuple hébreu. Vous avez Marc qui parlera de Christ à sa manière pour présenter au monde Christ, le serviteur de tous. Vous avez Luc qui écrira un évangile montrant le caractère historique finalement du royaume de Dieu et du message de l'évangile. Et chacun d'entre nous, moi je ne suis pas un évangéliste, je suis un pasteur qui enseigne. Mais je sais qu'il y a des collègues qui sont évangéliques et je ne pourrais pas faire comme eux. Il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs dans l'enseignement. Docte, vous comprenez ce que ça veut dire? Docteur dans l'enseignement. Et tout ça, sa particularité, ça se retrouvera de l'autre côté. Ce qui sera extraordinaire, c'est que les uns et les autres, on parlera avec Paul. On ira voir Jacques en disant, dis donc, hein, tu as dit des choses qui étaient pratiques, heureusement que tu as écrit cet épître. Et ceci et cela. Et Jean, l'apôtre de l'amour, chaque pierre correspond à une dogmatique particulière. Mais ça contribue finalement à l'harmonie de l'ensemble, parce que la vérité est une. La vérité de Dieu, elle est une. Quoi qu'on en dise, malgré toute la multiplicité de religions, la multiplicité de dénominations et d'appartenances que les hommes se sont données. Qui l'a inventé? Ce sont les hommes. Jésus dira, mais les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. C'est pas ceux qui vont avoir peut-être une petite étiquette en disant, j'appartiens de ceci et cela. Nous sommes dans la vérité. La vérité, c'est pas nous. La vérité, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la différence. La vérité est une, mais à diverses facettes. Et il y a un texte qui est écrit par Paul, précisément. Le grand Paul que nous connaissons. Et nous voyons qu'il écrira ceci. Parce que c'est extraordinaire ce qu'il nous dit. Au Éphésiens chapitre 3 et au verset 8 à 12, il est dit ceci. À moi qui suis le moindre de tous les saints, de tous les chrétiens, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est ce que nous faisons ce matin. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu. qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. C'est par nous, par vous, par chacun d'entre nous, connaissent par l'Église aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Moi, ce qui me réjouit profondément en tant que chrétien, c'est que Dieu a multiplié à l'infini les possibilités de se faire connaître aux hommes. Le fond ne change pas, mais la forme est variée. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à des choses sur lesquelles on bloque, parce que ce sont que des formes, et les formes, c'est Dieu qui les suscite. Selon le dessein éternel de Dieu qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage. Nous ne devons pas avoir un esprit étroit. Nous ne devons pas avoir un cœur rétréci pour ne laisser la place qu'à ce que nous connaissons. Connaître Dieu, il y avait la prophétie ce matin. Connais Dieu. On aspire à connaître davantage le Seigneur et à vivre de sa vie, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le faire connaître aux autres. Parce qu'il n'y a pas que le pasteur. Hein. Chacun d'entre vous, nous sommes associés à cette œuvre par votre vie. C'est pas tant ce que nous dirons que ce que nous vivons qui est important. Je le rappelle au passage. Alors aucun esprit humain ne peut à lui seul saisir la vérité dans sa plénitude, naturellement. Pierre vivante et de grand prix, ce que nous sommes. Tel est le mystère de l'Évangile que nous contemplerons en perfection. Et ce matin, j'ai levé avec la grâce de Dieu un petit coin du voile pour nous donner d'espérer. Vous voulez aller au ciel, frères et sœurs ? À chaque fois, je repose deux fois la question parce qu'au départ, c'est quand même assez hésitant. Vous croyez dans le ciel ? Mais oui, nous croyons dans ce monde qui n'a rien de commun avec notre monde sanglant, notre monde de guerre, notre monde d'égoïsme et de mensonge. Il faut bien le reconnaître. On nous en parle tous les jours. On a du mal à nager dans tout cela, naturellement. Allez, on continue et je vais bientôt finir. Parce que nous avançons dans tout cela. Il nous est dit un petit peu plus loin, verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Porte de perles. Et la place centrale de la cité céleste, de la sainte cité est parée d'or, pavée d'or. Tout y apparaît immaculé et transparent. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Plus de temple, et je vais vous dire pourquoi. Dans l'ancienne alliance chez les Juifs, il y avait la tente d'assignation dans le désert. Il y a eu le temple de Salomon, reconstruit après par Zorobabel, ensuite remis en état par le roi Hérode le Grand, mis par terre par les Romains en l'an 70. Il y avait toujours une identification, il fallait que les hommes, et c'est ce que l'on dit encore aujourd'hui, l'expression « monter à Jérusalem », c'est monter au temple. Ouais. Et vous voyez, si vous allez un jour à Jérusalem, vous voyez, c'est le monde entier qui monte. Hein. On monte à Jérusalem, on monte au temple de Jérusalem. Alors vous pouvez y aller, aujourd'hui il n'y a plus de temple. Hein. Mais toujours est-il que il n'y a plus de temple, pourquoi ? Car il n'y a pas de lieu plus saint, l'un ou l'autre. Dans un endroit ou dans un autre. Jésus le dira à la Samaritaine. Ce n'est pas ici ou c'est là. Mais maintenant le temple. Il est partout et il est nulle part. Où que l'on soit dans la ville, on est en Dieu et dans l'agneau. Et ce qui est important, c'est que le vrai temple, c'est Christ. Et vous savez ce qu'il a fait. Et il nous le dit à travers l'apôtre Paul. Il nous dit, mais vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, il n'est pas dans un bâtiment, il n'est pas dans un édifice somptueusement décoré. Le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Il est là. Alors il n'est pas ici où il est là, quand on voit que les gens font des kilomètres et des milliers de kilomètres pour aller dans un endroit de recueillement. Mais le Seigneur est ici. Le Seigneur est là ce matin. Et les uns et les autres, nous sommes son temple. Ça, c'est la parole de Dieu. Je n'invente rien. Bibliquement parlant, tout le monde pourrait dire la même chose. Naturellement. Ce sera vraiment, écoutez, vous aimez aller aux noces? Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. C'est bien les noces, à Cana ou autre part. Mais les noces, ce sera vraiment les noces perpétuelles. Car l'épouse, l'Église, sera alors élevée à son propre niveau de communion en esprit avec Christ. Ouais. Il n'y aura pas le ciel et la terre. Il n'y aura plus que le ciel, dans lequel des hommes, glorifiés par Jésus-Christ, seront avec lui dans une relation et dans une communion à jamais. La ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Tous les astres lumineux de la nuit perdront leur éclat devant l'ineffable lumière de la gloire divine. Il y a eu un phénomène astronomique cette semaine. Vous l'avez vu? On voyait là, je crois que c'était Jupiter ou Vénus ou Mars, je ne sais plus. C'était tout à fait particulier. Alors, c'est très très loin de nous, c'est encore dans le système solaire. Mais toujours est-il que tout ce monde, lorsque nous levons la tête ou les yeux vers le ciel, ça nous éblouit peut-être. Mais là, tout cela, eh bien, va disparaître. Parce que Jésus n'a-t-il pas raison de dire « Je suis la porte », comme on l'a vu dans la Nouvelle Jérusalem. « Je suis la lumière », comme nous sommes en train de le voir à travers ce verset. « Je suis la perle de grand prix » et « Je suis le fleuve de vie », comme il nous est dit dans le chapitre suivant. Tout. Je m'émerveille et je suis admiratif, et encore ce sont des mots que je n'arrive pas à trouver, de savoir cette beauté et cette magnificence qui nous attend. Et je le vois déjà en Jésus. Jésus répondra à une question à un de ses disciples, « Montre-nous le Père. » Et Jésus dira, « Mais celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors tout sera réalisé et sublimé, aussi ce qu'on appelle en termes de la terre, lumière, science, connaissance, s'éclipsera devant la magnificence et le rayonnement incomparable de celui qui porte le flambeau éternel, c'est-à-dire Christ, le flambeau de Dieu, nous l'avons lu. Et on en arrive à la fin. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. L'élite de cette humanité glorifiée, ça ne rentre pas dans un jeu de concurrence. Nous sommes élus, non pas en raison de nous-mêmes, mais en raison de l'amour de Dieu. Donc cette humanité glorifiée, que l'on appelle également les enfants de lumière, y seront attirés pour rendre l'adoration au Dieu créateur, et il n'y aura plus de nuit. Ouais. Plus de nuit, plus d'obscurité, plus de malentendus et plus de mensonges, ça sera le règne à jamais de la clarté, alors nous rentrerons dans cette cité lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière, et nous sommes aussi de ceux et de celles qui ont en eux l'esprit et l'amour de la vérité. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On n'y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà notre destination aux uns et aux autres. Et de proclamer à l'unisson, à la face de l'univers, ces paroles que je lis, que je relis dans le psaume 45, où nous jetons encore un dernier regard. Écoutez bien, et vous allez peut-être comprendre davantage ce psaume maintenant, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, et ça bouillonne. Je dis mon œuvre est pour le roi, et ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, parce que c'est Christ. La grâce est répandue sur tes lèvres, le message de l'Évangile. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Alors des filles de roi sont parmi les bien-aimés. Nous faisons partie de ces filles de roi. Vous savez, le Seigneur nous a appelés. La reine est à ta droite parée d'or, d'Orphir. La reine, c'est l'Église. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Mes frères et sœurs, à un moment donné, il va falloir oublier ce que nous avons été sur cette terre. Le Seigneur va l'oublier parce qu'il oubliera nos péchés. Il a déjà oublié nos péchés. Mais la parole nous dit, mais mon peuple, oublie ton pays. Oublie la maison de ton père, oublie ton peuple, notre condition d'homme, notre condition de misère, notre condition de médiocrité. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Alors c'est le moment ou jamais, tout à l'heure pendant la réunion de Sainte-Seine, pendant le moment de Sainte-Seine, de bénir Dieu. Vous avez bien compris, hein, où je recommence. Hein. Bénir le Seigneur, mais merci Seigneur de ce que je suis sauvé. De ce que j'étais perdu et de ce que tu m'as sauvé, moi, le fils ou la fille prodigue. Tu m'as permis de revenir à la maison, non pas en me jugeant et me condamnant, mais en m'invitant à venir auprès de toi. Parce qu'il est ton Seigneur, rends-lui hommage. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront tes faveurs. Que les hommes de notre monde recherchent les faveurs du message de l'Évangile. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. C'est ce que nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Je bénis le Seigneur qu'il y a déjà des frères et des sœurs qui ont été, maintenant qu'ils sont partis vers le Seigneur, et qui contemplent et qui voient déjà, en attendant que nous arrivions, en attendant que les générations puissent être au complet. Et que nous passions, parce que ça va venir après la résurrection. Hein. Mais néanmoins, ils sont déjà dans la gloire de Dieu. C'est une consolation pour tous ceux qui pleurent aujourd'hui. Consolation. Ils rentrent et nous rentrerons dans le palais du roi, la nouvelle Jérusalem. Et nous pourrons chanter, et nous pouvons déjà chanter avec les anges. Ce poème, je vous le donnais, je terminerai sur ce poème qui est écrit en musique. Écoutez bien. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs tout est clarté, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie? L'agneau seul est son soleil, et son éclat sans pareil illumine et vivifie la cité bénie. D'or, de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais, pour les élus tout est paix. De Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Ô Salem, Jérusalem, ville de paix. Ô Salem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'église soupire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que mon cœur te désire, Seigneur. Tu suscites, Seigneur, dans le cœur des uns et des autres, le désir du ciel. Nous sommes tellement rivés à cette terre. Nous sommes tellement dans, en effet, le cliquetis de nos armes, de nos bagarres, de nos batailles, de nos querelles, de toutes ces choses qui véritablement, Seigneur, fait toutes ces choses qui font notre quotidien. Eh bien, nous voulons te demander dans ta bonté, dans ta fidélité, que le peuple de Dieu relève la tête. Non pas pour regarder un ciel vide, mais regardez un ciel qui est rempli de magnificence et de splendeur. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Accorde-leur ta grâce. Bénis-les, Seigneur, de telle manière que nous ne pourrons plus chanter jamais autrement, Seigneur, les cantiques, que de penser, Seigneur, à ce qui nous attend dans l'au-delà. Que nous puissions, Seigneur, lorsque nous nous retrouvons, Seigneur, dans la communion de l'Église, nous puissions, en effet, avec spontanéité, avec allégresse, bondir de joie, Seigneur, pour te louer et te bénir. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Envoie le souffle de ton esprit, Seigneur, s'il te plaît, pour nous rendre capables, parce que notre destinée éternelle, c'est que nous louerons, nous chanterons et nous adorerons, Seigneur, eh bien, l'agneau de Dieu. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et déjà, Seigneur, nous avons les prémices de ces noces de l'agneau. Alors, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci notre Dieu merveilleux, merci notre Père céleste de nous avoir donné Jésus, parce qu'il est l'époux, parce qu'il est le plus beau de tous les fils de l'homme, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen.